Puissance Park, c'est des épisodes à retrouver sur SoundCloud, YouTube, une communauté pour débattre de l'actu des parcs sur Discord et des réseaux sociaux pour nous suivre sur Instagram, Twitter et TikTok. Retrouvez tout ça et plus encore sur puissancepark.fr.
Et bonjour à tous les puissants, bienvenue dans ce nouvel épisode de Puissance Park où nous sommes dans un lieu différent puisqu'on est à Frépertuis City dans les Vosges. Donc je suis Florian, votre maître de cérémonie, et je suis accompagné de Maxence.
J'ai eu peur là que tu rippes mon prénom là.
Ah non, je n'oserais pas, voyons.
Bien sûr, bien sûr. Mais surtout, nous avons le privilège,
et l'honneur,
l'honneur aussi, d'être accompagné de Patrice et de Frido.
Bienvenue à Frépertuis City.
Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez vous présenter ?
On peut se présenter en quelques mots.
On peut le faire.
Je te laisse l'honneur.
Alors, aujourd'hui, Patrice Florent, donc aujourd'hui président de la SAS Frépertuis City. Mes trois sœurs et moi-même avons repris le parc en 98. Un parc qui a été créé par mes parents, Michel et Simone. Donc, on va vous raconter un peu plus, mais aujourd'hui, officiel, voilà, c'est la gérance du parc.
Et pour moi, du coup, je me suis accroché à cette famille depuis un peu plus de 15 ans et je suis le community manager de Frépertuis City. Voilà.
Mais quand on n'est pas content, c'est toi qu'on va voir sur les messages.
Et quand on est content.
Et quand on est content, évidemment.
En tout cas, effectivement, c'est sur les différents réseaux sociaux du parc, c'est souvent moi qui pose en premier les yeux sur les retours. Mais je ne suis pas le seul à les regarder, bien évidemment, puisque du coup, toute la famille, elle est assez attentive au retour et à tout ce qui peut se dire. Et c'est très important, quoi. C'est très important d'écouter les retours des visiteurs et des fans aussi.
Tout à fait. Ouais. Oui, c'est ce qui fait avancer finalement la qualité de la destination.
Et puis ça nous permet aussi de nous remettre à la place du visiteur. Parce qu'effectivement, quand on est dans une entreprise et qu'on est dans le quotidien, il ne faut pas oublier effectivement que l'expérience visiteur, elle voit un autre aspect, quoi, oui. Qu'on oublie parfois.
On est dans le nez dans le guidon.
Exactement.
Alors, si je peux me permettre de rebondir sur Fredo, parce qu'il est très modeste, community manager, on pourrait penser qu'il n'est que dans les réseaux et que c'est uniquement ce qu'il fait. Or, c'est pas uniquement ce qu'il fait. Et c'est ce qu'on appelle l'homme de l'ombre, en fait, sur les projets depuis plusieurs années. Et avec des temps forts comme Golden Driller, où là il a carrément lié famille avec les Américains de Tulsa, mais c'est lui qui va chercher le détail, qui va aider les constructeurs, qui va designer, puisque les pieuvres ont été dessinées de son papier. Donc forcément, ça va au-delà de son rôle de community manager. C'est vraiment, alors que ce soit pour moi dans la gestion générale du parc, mais aussi il va être le conseil des boutiques, il va être le conseil de la restauration, il va être un peu tout. Donc forcément, il est l'homme clé de Frépertuis City.
L'homme de l'ombre, surtout, effectivement, on avait dit, on ne le disait pas. beaucoup le savent, je suis avant tout parc fan, donc j'ai l'avantage de aussi beaucoup, comme beaucoup d'auditeurs, voyager, de voir les autres parcs et tout. Donc c'est l'avantage de pouvoir aussi ramener un petit peu, des fois des idées, des fois des inspirations. Et de voir ce qui se
oui, ce qui se pratique évolue. Et se fait aussi à la concurrence et qui peut être bon à reprendre, parce que de toute façon, ce qui compte, c'est avant tout l'expérience finale pour le visiteur.
Bien sûr, et que ce soit effectivement des fois d'avoir pu essayer telle ou telle attraction, c'est un avantage pour avoir une idée si oui, c'est fun, non, c'est nul. Enfin, c'est quand même le fait de le faire qui permet de savoir. Et après, ça peut être vraiment sur aussi des choses assez bêtes de gestion, des trucs plus pratiques, des poubelles, des bancs. Enfin, ça peut vraiment on a en tant que visiteur de parc, du coup, on ouvre l'œil un peu sur d'autres choses aussi. Mais ça, je pense que Flo le sait aussi, parce que étant aussi là-dedans, on a un œil qui s'ouvre encore un peu différemment quand on visite d'autres parcs.
Complètement, et on peut anticiper tout ce qu'on veut. Finalement, rien de mieux que d'expérimenter en vrai. C'est là qu'on se rend compte de tout, et ce que le quotidien des visiteurs, etc. C'est même assez conseillé souvent de faire les files d'attente, parce que c'est ce moment-là où on vit vraiment le truc, on entend les discussions.
Complètement,
et,
oui.
Et les retours, du coup, en direct des visiteurs, quoi.
Eh bien, tout ça, c'est une aventure familiale, du coup.
Ah, complètement, puisque mes parents sont arrivés en 1966. Donc, alors, l'histoire est compliquée, parce que mon père, qui avait fait l'école de vannier, de la vannerie pour faire des paniers, a fait les marchés, a été infirmier, a monté une petite épicerie, mais in fine, avait envie de faire du loisir. Donc, il cherchait un endroit pour initialement faire une pêche à la truite et avec une petite restauration. Le truc, c'est qu'il avait deux enfants en bas âge, en gros, qui étaient mes deux sœurs, un troisième qui était déjà réfléchi, qui devait être moi. Et donc, il cherchait un endroit où il y avait de l'eau, une école pas loin, enfin, beaucoup de critères dessus. Et donc, de Meurthe-Moselle, il a commencé un peu à chercher dans le secteur pour trouver ici Frépertuis. Alors, a posteriori, on dirait effectivement, on est un peu coincé dans la vallée, ce qui fait que le parc a pour l'extension aussi connu ses difficultés. Mais le cadre naturel était là, l'eau est là.
Le cadre initial était idyllique pour poser les valises pour une famille.
Complètement. Et donc voilà, l'histoire a commencé comme ça. Et donc il a ouvert cette petite cette vieille bâtisse qui avait brûlé dessus, il a fait une salle de café, commencé à creuser un étang, et bien sûr, a commencé la pêche à la truite, où là, les gens pouvaient déguster la truite sur place. Il faut quand même se remettre dans le contexte, 66, vous n'aviez pas des poissonneries à chaque magasin où vous aviez l'occasion de manger déjà du poisson frais, soit emporté, soit déguster sur place. Et puis parallèlement, sa passion pour l'ukuluk l'a conduit à faire du western, entre guillemets, puisque c'était un fort apache, une petite banque, prison, gars, et puis un saloon, et puis voilà, puis on jouait là-dedans, dans les baraques, dessus, il est venu les poneys, et puis un petit train, le premier petit train, 400 mètres de long, je crois, moteur de deux chevaux, fait maison, hein, avec les petits personnages de Lucky Luke qui étaient sur le dessiné. Et puis je crois que une plaine de jeux, voilà, c'est ce qui a fait le début de Frépertuis, entrée gratuite. Les gens, c'était pas parc d'attraction à part entière, quoi. C'était un peu la guinguette, en fait. D'ailleurs, les villageois, pendant des années, et encore pour certains anciens, disent toujours la guinguette, parce qu'ils venaient, il y avait un jeu de qui, ils pouvaient jouer au qui. Pendant ce temps-là, les gosses s'amusaient sur la plaine de jeux, achetaient des tickets de train, de poney. Il y a eu la mine d'or en 78, qui a été une première attraction qu'il avait vue à Legoland, Danemark, si je me souviens bien. Et donc, où il a créé ce petit parcours de train avec des mannequins de chiffon dessus pour faire la première attraction. Ça, c'est pour la première phase de Frépertuis jusqu'au jour où il y a eu cette crise des années 80 où on a senti une baisse de pouvoir d'achat à l'époque, et donc où on a décidé de prendre un premier virage en instaurant un droit d'entrée. Et parallèlement, il y a eu le premier grand 8, entre guillemets, qui était le TGV de Soquet. Alors effectivement,
donc le TGV était après Frépertuis-City.
Le TGV est venu
avant Strasbourg, du coup.
Bien avant Strasbourg, du coup.
Donc si je résume bien, il y a le TGV après Frépertuis-City dans les années 80. Et en 78, du coup, on a un train qui visite une mine avant même que Big Thunder Mountain ouvre en Californie.
Oui, exactement. C'est vrai, ça.
Ah bah oui, c'est 79 oui. En Californie,
exactement,
et 80 ouais. Pour Magic Kingdom. Donc, vous
bien
êtes
joué,
en avance sur Disney.
Eh oui, pour le coup.
Qui a inspiré qui
On se pose la question.
Tout à fait. Et donc, voilà, la suite de l'histoire veut que rapidement, le parc a un petit peu orienté vers des attractions. Alors, au début d'occasion, hein, parce que c'était un petit peu... voilà, la trésorerie était mon rendez-vous. On se posait pas la question de la thématisation à l'époque, puisque la preuve, c'était un TGV et pas un... C'était pas un train de mine, ni un Gold. Donc voilà.
Et après, mais, c'était quand même un départ d'un lieu entre guillemets de guinguette. Réussir à se financer ainsi, faut y aller. Faut aussi avoir confiance, faut savoir ressortir.
C'est clair que quand il rentrait chez le banquier pour demander de l'argent, il sortait plus vite par la fenêtre que par la porte. et donc, d'où l'idée de se mettre agriculteur, parce qu'en fait, pour être complet dans l'histoire, vous aviez le Crédit Agricole qui prêtait aux ruraux, mais il fallait-il qu'il soit agriculteur. Or, faire de la vache dans cet endroit-là n'était pas facile, donc il s'est mis pisciculteur. Il a fait la pêche à la truite, ce qui lui a permis d'avoir des prêts. Et à l'époque, les banquiers étaient aussi honnêtes qu'aujourd'hui, simplement qu'ils ne demandaient pas vraiment de... Ils faisaient un prêt, ils débloquaient l'argent et ils regardaient pas... Il n'y avait pas besoin des factures qui appuyaient le prêt. Donc ça veut dire que moi, j'ai vu passer des montages et des plans de financement où il y avait des pondoirs pour truite, des trucs... en fait qui n'ont jamais vu le jour, qui ont vite été remplacés par des vélos humoristiques ou des vélos, un toboggan, des choses comme ça. En attendant, ça à dire, mais Crédit Agricole est toujours notre partenaire principal, donc c'est preuve qu'ils ne nous en veulent pas de trop.
Ça valait le coup, je pense.
Et donc,
c'est vrai.
Et donc, c'est vrai que grâce à ça, il est arrivé à avoir un peu de trésorerie là-dessus. Et effectivement, rapidement, le divertissement arrivait, les gens avaient cette soif, et on a vu aussi, ils organisaient des fêtes avec des orchestres dansants une fois par an, des bals, des choses comme ça. Donc tout ça a permis à Frévertu de se développer, avec après le saloon qui était une grosse salle de restaurant où on recevait beaucoup de bus dès le matin et de voyages organisés d'anciens choses comme ça, de pêche à la truite, de restaurant, et puis après toute la panel d'attractions, le circuit des neiges, donc qui était un Himalaya en bois, je me rappelle, un truc infernal à faire tourner avec beaucoup de modifications. Le TUF ne l'accepterait plus aujourd'hui d'ailleurs. voilà, les Mississippi, les Louisianes, alors elles qui existent toujours, qui sont encore dans un autre parc en France dessus. Et puis, au fur et à mesure des attractions. Et après, effectivement, on a commencé à se creuser un peu plus avec des attractions. Donc, bien sûr, dans un parc d'attractions, en fait, comme il y a des attractions un peu paliées, j'ai tendance à dire, le TGV a monté Frépertuis à 50 000 visiteurs. Il y a eu le Floum derrière qui a fait 100 000 visiteurs. Après, vous avez la Crique des Pirates, 150. Timberdome 200, enfin voilà, c'est des investissements paliers. Après, entre chaque, bien sûr, il y avait des investissements plus modérés, mais qui étaient des gros investissements. Alors bien sûr, le Floum était de 2 200 000 francs, je crois, de budget à l'époque. Helmut Garrett en a fait 1 200 000 euros cette année, quoi. Donc forcément, les investissements étaient moins importants, mais ça, c'était quand même des attractions fortes. Et puis, pour être aujourd'hui ce qu'il est, à savoir qu'en 88, donc mes parents mon père est décédé, mais il était à l'âge de la retraite, ma mère s'est retirée et mes trois sœurs et moi-même avons pris la suite avec chacun. Comme on travaillait déjà avec nos parents, on avait déjà chacun notre secteur. J'en avais une qui travaillait avec ma mère en la restauration, donc elle a gardé la restauration. Une autre qui travaillait avec la grand-mère, cette fois dans les boutiques souvenirs, qui a gardé les boutiques souvenirs. Moi qui étais beaucoup avec mon père dans la maintenance, dans les investissements et dans les négociations avec les administrations, avec les banques. Et puis la dernière qui était dans la communication, dans le recrutement, et qui jusque l'année dernière ont occupé ce poste-là, puisque cette année, en début d'année, deux sont parties puisqu'elles étaient à l'âge de la retraite, celle de la restauration et celle de la communication. Et donc reste celle des boutiques aujourd'hui et moi qui avons fait cette saison tous les deux.
Eh bien.
Et voilà, c'est facile.
Ça,
en fait.
ça, quand on me donne la parole, on ne la reprend pas si facilement. Ça, hein.
Mais voilà,
je boucle.
Est-ce que c'est pas trop dur quand on a baigné dans toute l'enfance, qu'on a travaillé dans un parc, de lâcher entre guillemets le bébé?
Si vous parlez de moi, pour l'instant, je n'ai pas lâché.
Non, toujours pas. Vous. Mais du coup, vos sœurs qui avaient du coup des secteurs bien définis, est-ce que ça n'a pas été trop dur? Ou alors c'est une idée qui s'est fait
je pense
années.
Que c'est à elles qu'il faudrait leur demander, mais bon, pour voir un petit peu aujourd'hui, c'est vrai que quand vous êtes dans un parc d'attractions à notre hauteur, c'est 7 jours sur 7. Alors c'est vrai qu'on est ouvert 6 mois de l'année. Alors, là, ils vont dire ça va, vous fermez, vous allez être tranquille pendant 6 mois. Non, on n'est pas tranquille, d'une part, parce qu'on prépare déjà les prix, les brochures, tout.
Puis l'hiver, c'est aussi la maintenance, les formations, des choses qui... Et surtout, sur combien vous êtes de permanents?
Alors là, on est 24 permanents, et on va tendre encore à monter, puisque bien sûr, dans la maintenance, comme dit Fredo, forcément, plus vous avez d'attractions, plus il y a de maintenance. Dans la communication, c'est pareil. Dans la restauration, c'est pareil, puisque quand c'était avec mes sœurs, forcément, il y avait pas le... Elles étaient ni à 35, ni à 39, quoi. C'était 12, 15, 16, 18 heures par jour. Elle pouvait arriver à 7 heures pour réceptionner ses commandes et repartir à 23 heures. C'est 6 à 7 jours sur 7, parce qu'en haute saison, voilà. Et donc, effectivement, l'idée n'est pas... Enfin, je veux dire, par là, quand vous avez jamais connu... parce que nous, on n'a jamais connu ni les vacances d'été, ni le voilà, c'est les vacances qu'on pouvait avoir avec nos parents, c'était à Noël. Elles n'ont pas connu ça. Elles ont eu des enfants, des petits-enfants, mais quand elles prenaient leurs vacances avec leurs enfants, c'était forcément ou à la Toussaint ou... Donc, c'est... Je veux dire, c'est pas, ça les a pas. Mais aujourd'hui, elles apprécient quand même. Alors, en plus, on a eu droit à 2 années Covid, qui leur a donné un avant-goût d'être encore au mois de juin sur leur terrasse, puisqu'on pouvait pas ouvrir, avec le soleil. Et là, je pense que comme beaucoup de monde, c'est quelque chose que on n'avait jamais connu, quoi, de pouvoir être au mois de juin, un plein dimanche, en train de manger sur une terrasse. Chez nous, c'était nouveau.
C'était
complètement. On était même surpris. On venait presque manger sur la terrasse du parc pour se dire il y a quelque chose qui va pas. Non, mais j'exagère. Mais c'est vrai que donc de ce fait, voilà, il y a eu un vrai avant-goût de ça. Donc c'est pas forcément lâcher le bébé. Dessus, puisqu'aujourd'hui elles viennent avec leurs petits-enfants profiter du parc si elles le veulent. Et je pense que c'est vrai que quand vous allez travailler parce que dans des grosses structures où moi je veux pas, mais par exemple avec des collègues qui sont à la technique et à la sécurité et que on peut en communiquer, envoyer un mail au mois d'août, et quand je vois je suis absent, je serai en congé du 21 au mois d'août, quoi. Et donc, forcément, comme c'est des grosses structures, ils ont des gens derrière, et puis ils sont ouverts beaucoup plus longtemps. Donc, il est normal qu'ils prennent leur congé dessus. Nous, dans les petites structures, on peut se permettre pour l'instant ce genre de choses. Et donc, c'est vrai que. C'est en permanence la pression, c'est en permanence c'est quelque chose de stressant parce que vous avez toujours cette épée d'Amoclès de la rupture de d'alimentation pour celles qui s'occupent, et qu'il faut on a une fluctuation de notre visiteur qui qui passe de 400 une journée et 5000 le lendemain et 450 le surlendemain pour être à 7000 4 jours après quoi. Donc tout ça, c'est à gérer. Certaines hautes structures savent que quoi qu'il arrive, ils ont déjà 12000 visiteurs, enfin je pense plutôt un départ comme mon voisin allemand ou des choses comme ça, rien que par le parc hôtelier, ils savent qu'ils ont tant de personnes dans le parc. Et donc, voilà. Quand vous êtes un petit parc indépendant météo, régional, hein, nous, les gens vont ouvrir la fenêtre, ouvrir le volet et vont dire « il fait bon, on va à Frépertu aujourd'hui ». Donc, c'est de l'impulsif. Donc, forcément, pour nous, derrière, le stress est là parce qu'il faut assurer, et le jour où vous avez 450 personnes, bah pas stressant, mais vous en avez presque autant en personnel, donc là il faut dire voilà, il faut gérer les plannings, et donc tout ça fait que, à mon avis, quand on s'arrête, on doit pas regretter de pouvoir se poser un peu et de profiter après tous ces petits enfants d'aller voir mes deux sœurs ont été pour la première fois au Puy du Fou cette année. Mais c'est des choses que voilà, on peut, ils ont la cinécénie, tout ça, c'est des choses qu'ils pouvaient pas faire. Moi, j'ai pu, via le syndicat professionnel, aller au Puy du Fou et avoir droit à quelques petites animations, parce que c'est dans le cadre des rencontres du SNELAC qui se déroulent au mois de mai, et avec ces rencontres on nous présente toujours deux, trois spectacles les plus beaux, mais jamais la cinécénie complète. Et voilà. Et donc, c'est Fredo qui me fait voyager via ses tripes. C'est vous via ouais, voilà, qu'on écoute en voiture avec Fredo et Clément, enfin, qu'ils écoutent devant et que j'entends derrière. Qui nous accompagnait jusque Vienne cette année. Je crois qu'ils ont fait le voyage complet.
Ouais, vous avez fait le voyage avec nous.
Ils ont fait le voyage complet. Hein, On n'a pas demandé rien pour la bouffe ou pour le gasoil.
Non, on n'est pas comme ça.
Je l'ai entendu, moi, quasiment depuis la sortie du tunnel jusque Vienne. Donc, voilà, c'était un vrai plaisir. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que demain, si je devais prendre ma retraite, je ne serais pas inintéressé d'aller faire. Alors moi, je suis plus western, donc c'est vrai que d'Hollywood, c'est des parcs qui me donnent vraiment envie de visiter, surtout quand Fredo revient.
Mais t'es attendu à Tulsa. Hein.
Et en plus, je suis attendu à Tulsa. Mais my English is very poor, mais je me débrouillerai, c'est pas grave. Mais c'est vrai que voilà, je suis pas certain j'aurais pas envie de. Pas que j'aurais eu autant de mal que ça.
Et d'ailleurs, par rapport à cette thématique western, il y avait donc plein de thèmes comme le TGV, l'Himalaya, qui étaient très variés. Est-ce qu'il y a eu un moment charnière où on s'est dit, c'est maintenant on fait les cowboys, le Far West, et c'est vraiment ce thème qui va être développé pour l'ensemble du parc, et les pirates qui sont venus plus tard aussi avec ça?
Ouais, enfin, il n'y a pas eu vraiment de moment. C'est-à-dire que même quand il y avait toujours ce personnage Lucky Luke qui nous accrochait. C'est-à-dire que même le cyclone, enfin l'Himalaya qu'on a appelé nous le cyclone, tous les panneaux tout autour étaient
décorés
avec
des
peintures de Lucky Luke. Ce qu'il y a eu, c'est que le parc a commencé à prendre de l'ampleur, à communiquer de plus en plus loin. Et parallèlement, c'était encore Walibi et Soumaïus, où ils ont décidé de thématiser Walibi Belgique en faisant des quartiers dont Lucky Luke, avec la Dalton Tower et tout. Et là, on s'est dit, attention.
Ça va nous coûter cher.
Là, on va passer à la caisse au niveau royalties. Donc, on a abandonné ça. Mais effectivement, et donc on a retransformé notre personnage qui était Lucky Luke pour le faire en cowboy,
notre propre cowboy,
dessus. Et après on essayait. Alors on c'est vrai que la crique des pirates, ça a été parce que les pirates. Alors on a rebondi en disant dessus. En fin de compte,
il y avait déjà la zone mexicaine quand même.
Il y avait déjà la zone mexicaine, ouais, tout à fait.
Et je sais que quand c'était la période donc pour créer la crique des pirates, on a aussi fait des recherches pour essayer d'avoir un splash battle sur un thème encore très western. Mm-hmm. Alors il y a des parcs qui ont réussi à le faire, comme à Silver Dollar City, je crois, ils ont ça. Mais du coup, effectivement, par rapport à un côté assez efficace que peut avoir cette attraction dans un thème chaud, type vraiment Caraïbes et tout ça, ça faisait pas le poids. Donc du coup, la créativité était là, mais l'efficacité était moins forte. Et du coup, le choix était de quand même se baser sur ce thème pirate et de l'ajouter au parc, sachant qu'il y avait quand même déjà un bateau pirate au milieu du Far West. et effectivement, ça a vraiment... je pense que c'est intéressant aussi, à un moment donné, en termes de boutique, en termes d'image, d'arriver quand même à se diversifier, même si effectivement, on n'a pas le luxe d'être 100% western sur l'ensemble du parc. On l'a essayé, mais ce n'est pas non plus évident. Du coup, une zone comme ça, en fait, ramène quand même une fraîcheur, et puis elle amène de nouveaux éléments forts dans la tête des gens. Et pour les enfants, en fait, c'est vraiment aussi super, super cool, quoi, d'avoir ça. Après, on n'est pas non plus parti dans une idée que tous les thèmes pourraient venir à Frépertuis un jour. Et spoiler alert, pas de dinosaures, pas de zone spatiale.
Merci, merci, merci. Oh là là, merci, 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 merci.
Donc, mais après, effectivement, il y a des parcs incroyables, donc comme Silver Dollar City ou Dollywood, qui arrivent en fait à avoir une thématisation qui est quand même qui est générale, mais et qui retrouve en fait des particularités, genre la zone des pompiers, la zone d'un village, la zone exposition universelle, mais qui va rester quand même dans cette grande époque.
L'Ouest américain, finalement, voilà, globalement.
Il y a une cohérence globale, et à l'intérieur, arriver quand même à trouver des zones thématiques, parce que c'est important, quoi, pour les gens qui vivent quelque chose de différent d'une zone à l'autre. Donc là, effectivement, au fur et à mesure, on est plutôt resté dans cet esprit de l'Amérique, avec cette grande base du western, mais effectivement, on n'est pas non plus que sur le cow-boy, puisque Golden Driller, il est quand même déjà dans l'époque de la conquête de l'or noir, mm-hmm. Et donc on est déjà plus au temps des tout premiers cow-boys, et du coup on peut avoir cette latitude un petit peu en termes d'époque et en termes géographiques aussi, mais l'idée qu'on s'est donnée pour l'instant, en tout cas, c'est d'essayer de rester vraiment dans ce bassin-là, et voilà. Donc pas de zone asiatique, pas de zone mais une zone indienne peut un jour avoir un sens ici, bien sûr. Enfin,
et oui, c'est nord-américain.
Nord-américain.
Même les pirates, ça fait pas tâche. Hein. Ça s'intègre hyper bien dans le parc, dans le paysage.
Des Caraïbes, ça reste nord-américain.
Exactement,
aussi,
donc ça marche tout à fait.
Hein. Sujet, hein.
Oui, bien sûr, on est vraiment sur le bassin de la Floride, après le Nouveau-Mexique. Enfin, il y a quelque chose. Mais oui. Après,
c'est une zone très agréable. Enfin, tu l'as très bien dit, que ça apporte de la fraîcheur. Et surtout, c'est une autre couleur. C'est pas ce rouge-orangé. Là, on a du bleu, du turquoise,
et puis c'est une nouvelle mascotte, c'est vraiment aussi vraiment un nouvel univers qui s'ouvre, tout en gardant quelque chose de cohérent, voilà. Mais on navigue, on essaye, et on n'en veut pas non plus aux parcs qui ont décidé de faire des multi-thèmes. C'est des choix, et les deux se valent. Enfin, il y a, quand c'est bien fait, il y a pas de souci.
Quand c'est bien fait, il y a pas de souci. autre question. On a parlé de l'histoire, on a parlé là du coup la fin de la retraite de vos sœurs et aussi de la perception que vous avez eue depuis le Covid. Mais on n'a pas entendu de votre enfance. Comment, qu'est-ce que ça fait de grandir dans un lieu qui finalement se transforme en parc, puis est clairement un parc, et après qu'il faut développer, il faut fidéliser les gens, investir toujours plus, avoir toujours plus de visiteurs. Comment on arrive à évoluer dans ce milieu-là?
Alors, il y a deux phases. Hein. Il y a la première phase qui est toute l'enfance, et j'aurais tendance à dire adolescence, qui fait envier les autres et qui clairement vous fait chier parce que vous êtes obligé de ramasser les babiers dans le parc, d'aller courir après les poneys qui se sont lâchés à minuit et demi, d'aller les ramener au parc, d'aller se faire mordre, se faire piétiner par les bourricots. Enfin, moi, ce que j'en ai, hein, et pour le coup, pas avoir ni Covid ni vacances. Donc, après, on avait la chance de, enfin, la chance entre guillemets, mais de ne pouvoir avoir cette partie d'hiver où là, on était beaucoup plus tranquille. Mais dessus. Après, effectivement, il y a l'autre phase où là, clairement, moi, j'ai j'ai un parcours un peu particulier parce que j'avais commencé des études de mécanique dessus, mais sans vraiment les études. Je sais pas, il y a une incompatibilité entre moi et les études que j'ai transmis d'ailleurs à mon fils. Et donc qui fait que j'ai vite été obligé de faire une réorientation suite à un accident de moto. Mais après, effectivement, on est plus dedans. Et donc là, ça devient... Alors moi, j'ai été longtemps à travailler avec mon père, et donc où on était vraiment toujours en phase complémentaire, jamais l'un sans l'autre. Enfin, on était quand même... on était des passionnés, donc en fait quand il y a la passion, lui considérait que hors les administrations il était rentier, c'est dire, et c'était cette satisfaction de mener des projets comme on l'a fait après, hein, avec le Grand Canyon, puisqu'il n'était plus là, avec la Crique des Pirates, avec des choses comme ça. Il y a effectivement deux phases. Il y a la phase où vous êtes ado, où tout le monde dit « Oh, t'as de la chance, t'es dans un parc. » Et ben, tu viendras quand on passe toutes ces vacances à conduire le petit train de la mine, puisqu'à l'époque, j'étais à la mine d'or. D'ailleurs, je crois que ça m'a permis de connaître mon épouse. Mais c'était pas négligeable. Mais voilà, ça reste quand même qu'on est tous les jours, et donc c'est un peu la même vie qu'on vit aujourd'hui quand on est dans les petits parcs. Forcément, c'est moins fleur bleue que ce qu'on peut penser de l'extérieur. Après, dans ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est complètement différent, parce que quand on est sur des projets, c'est passionnant, c'est en gros un beau métier, et on travaille en plus dans des conditions. Les gens viennent ici pour prendre du bon temps, du plaisir. Donc, j'ai tendance à dire que c'est un vrai plaisir de faire plaisir, parce que au moins si on arrive à ce que Fredo n'ait pas de mauvais commentaires dans la journée,
s'il te plaît,
pour nous ce sera une très bonne journée, quoi. Mais voilà, quoi, l'idée là, c'est de pouvoir effectivement apporter une satisfaction, et dans le choix des attractions, et dans ce qu'on peut apporter à nos visiteurs.
Et du coup, si je peux ajouter ma petite touche, c'est que moi, forcément, j'ai grandi avec Frépertuis, parce que je suis venu avec mes parents depuis que je suis tout petit. Mais après, quand j'ai commencé à rencontrer la famille qu'il y avait derrière, effectivement, c'est là aussi où j'ai vu la passion qu'il y avait dans leur métier, le fait de vouloir faire évoluer le parc sans cesse. Et c'est ça, après, qui a fait aussi que ça a beaucoup accroché, quoi. Plus j'en connais, plus je vois qu'il y a d'autres parcs régionaux français qui sont sur ce schéma-là. Et il y a vraiment beaucoup de passion, beaucoup d'envie de bien faire et de tirer vers le haut cette industrie, quoi. Donc c'est chouette.
Alors, il n'y a peut-être pas eu d'accroche avec les études, mais quand même une étude par KTM. Développer un parc d'attractions, ce qui est quand même une étude au quotidien qui était là, hein. Finalement, c'était le plus beau des apprentissages, j'ai envie de dire.
Oui, non, mais c'est sûr. que le fait de pouvoir imaginer une attraction, la thématisation dessus. En plus, quand on est aidé par Fredo qui va amener la documentation qui va bien et donc on a fait des choses.
Après, il y a aussi les étapes très rigolotes. Il y a monter les budgets,
il y a
tout ça aussi.
Il y a la partie rigolote, la partie imagination. Forcément, pour convaincre un banquier d'aller chercher 7 millions à l'époque quand on a refait Golden Driller plus le rocher de la mine d'or. Forcément, et que vous faites 7 millions de chiffres et que vous avez encore de l'endettement puisque Timber Drop est encore dans les échéanciers plus une paire d'attractions, il faut être convaincant. Bon, pour l'instant, personne n'est venu se plaindre et on a toujours nos 5 banques en plus de Crédit Agricole qui sont partenaires. Donc, ce qui veut dire qu'on a su honorer nos trucs. Effectivement, ça fait partie aussi d'un côté... Du côté un petit peu plus difficile dans la gestion d'un parc, mais je dis toujours si ce serait trop simple, on aurait trop de concurrents, donc autant qu'il y ait un peu de difficulté.
Est-ce qu'il y aurait des anecdotes, peut-être des galères ou des leçons qui ont été retenues sur toute l'évolution du parc ou des moments clés importants?
Après, moi, j'ai pas connu cette époque, mais je sais que le passage en mode payant du parc a forcément fait grincer des dents. C'était pas une étape facile.
C'était plus qu'une anecdote.
On écoute.
Là, je voyais mon pauvre papa qui, je me souviens, hein, on était la petite guérine d'entrée là. Et en fait,
il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque.
On était à peu près à 8 voitures sur 10 qui repartaient. Parce qu'en fin de compte, les gens étaient tellement habitués à venir à Frébertuis et que le droit d'entrée était gratuit qu'il y en avait, ils arrivaient, mais même avec la bonne foi, ils n'avaient pas pris d'argent sur eux, quoi. On a dû commencer, je crois, le ticket. Parce qu'en fait, les établissements Soquet, tenus par Monsieur Soquet, décédé aujourd'hui, mais avec qui on avait pris ce fameux TGV, devait être livré pour le début de saison. Et bon, comme beaucoup de constructeurs, je crois que c'est à l'époque c'était déjà la mode, d'être en retard, c'était la même année que celui de Bagatelle, le coaster Soquet qui était à Bagatelle. Et donc il a pris du retard sur celui de Bagatelle, et nous, il est arrivé, la peinture collée encore aux mains dessus pour le décharger, enfin bref. Et donc on a dû ouvrir ça au mois de juin. Et on avait décidé de faire l'entrée payante le jour où on mettrait le Grand 8. Donc il y avait toute une partie où on était encore gratuit, on était au ticket. C'est d'ailleurs, je suis en train de penser, c'est depuis ce jour-là qu'on augmente le prix du parc que quand la nouveauté est ouverte. Puisque depuis, on n'a jamais appliqué le prix d'entrée annoncé tant que la nouveauté n'était pas en service.
Ils ne sont pas beaucoup à le faire, ça.
Il y en a plein qui mettent déjà le nouveau prix
alors qu'il n'y a pas encore eu la nouveauté.
C'est une habitude intéressante de le noter. Qu'on a gardé.
Tu parles d'un parc magique à l'est parisien.
Ouais, d'accord.
Et donc, sur le fait d'avoir mis d'entrée, puisqu'on avait dit, non, on devait être à 15 francs, puisque, en fin de compte, on avait calculé, on avait trois, le ticket de train était 3 francs, parce que, bien sûr, à l'époque, le ticket de la mine était de 5 francs, je crois, donc on avait dit, plus le ticket du Grand Prix, donc 3 x 5, 15, voilà, ça faisait 15 francs, ce qui était pas beaucoup, mais qui était symboliquement, et les gens comprenaient pas, quoi, parce qu'ils disaient, mais non, mais attendez, on n'a jamais payé là-dessus. Et malgré ça, dès la première année, on avait doublé notre chiffre d'affaires. Donc, il a fallu une paire d'années pour que les gens comprennent dessus. Donc c'est vrai que c'était un passage difficile, mais pour les gens locaux, mais après ils ont vite compris que le pourquoi du comment, mais c'est vrai que ça faisait tellement d'années qu'ils venaient, Il y en avait, c'était en toute bonne foi, hein. Ils venaient dessus, mais ils n'avaient pas pris un... Ils n'avaient pas pensé à prendre leur porte-monnaie puisqu'ils avaient le pique-nique, ils avaient...
Bah, ça faisait 22 ans, 22 ans avant que ça devienne payant.
Ouais, 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 tout à fait. Ouais.
C'est une génération, littéralement, qui a connu le, ouais, la voilà, destination ça, ouais. Au ticket ouais, par attraction. Donc ouais. Oui, c'est un gros tournant pour une habitude familiale.
C'était un gros tournant, ouais, effectivement. Ça nous a aidé. Je pense que mes parents ont été aidés, enfin pour le choix, par le SNELAC, qui était à l'époque France Parc, qui était un tout petit syndicat, qui s'est créé en 83 sous l'impulsion de François Paron, qui avait créé Bagatelle dessus et qui a dit il faut qu'on se mutualise, il faut qu'on se fasse voilà qu'on discute ensemble. Et mes parents ont pu côtoyer des gens qui étaient un peu comme nous et qui étaient passés à l'entrée payante et qui lui ont dit il faut absolument que vous fassiez ça, parce que mon père dans son idée lui toujours l'idée de faire plaisir aux gens. Mais de notre côté, dessus, c'était le restaurant de ma mère qui faisait tourner la boutique, ce qu'elle avait fait dès le début, hein, puisque c'est grâce à la restauration qu'ils pouvaient acheter les premiers. Et donc là-dessus, effectivement, le France Parc a des échanges avec les autres personnes les ont incités. Plus il y a eu effectivement cet apport de Grand 8 qui a permis de dire bon, on met un vrai manège. Donc
c'est
là,
étape,
voilà,
oui.
on peut demander, on peut instaurer le billet d'entrée et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Alors après des anecdotes, ça c'est une anecdote un peu malheureuse. Après des anecdotes, il y en a plein. Il y a aussi des formules de l'histoire, Golden Driller, et alors, j'embête souvent des gens que je raconte l'histoire de Golden Driller, mais c'est une histoire fantastique, Golden Driller, d'avoir pu lier contact avec Tulsa, refaire en identique la statue qui est aujourd'hui où Fredo est allé cet été.
J'ai été vérifié si elle ressemblait vraiment.
Mais on est quand même sur un pôle de plus d'un million et demi d'habitants. On a eu la joie d'avoir, enfin moi j'ai encore donc on attend de faire une exposition ou un mémorial. J'ai les clés de Tulsa, de la ville de Tulsa qui nous ont été remis par l'ancien maire. On a les certificats comme quoi ils nous autorisent à exploiter le nom de Golden Driller pour l'attraction. Alors que nous, quand on a cherché le titre, enfin le nom de l'attraction,
tout est parti de là,
dessus,
tout est parti du nom de.
On a dit, mais est-ce qu'on va pas avoir des problèmes? Bon, on a dit, attends, Frépertuis, là où il est, d'ici que les Américains ils s'aperçoivent de quelque chose, on peut dormir tranquille. Et bien sûr, on fait
Non, bah avec les réseaux, au bout de l'Amérique, on sait maintenant, tout de suite.
On fait les 50 ans du parc. Là, on lève la maquette qu'on avait de A à B avec la tour Intamin et on dit l'année prochaine Golden Driller. Et 8 jours après, sur les journaux de Tulsa,
c'est le journal américain.
une attraction va s'appeler comme notre statue, Golden Driller. On dit oh, catastrophe, on est mort là. On est mort là. Moi, je parle pas un mot d'anglais, Fredo, tu gères les avocats.
Vas-y.
tu gères les avocats parce que là, à mon avis, ça
travaille dans l'ombre, c'est bien ça.
Allez, vas-y, Fredo. Allez.
Ça va nous coûter le billet. Et puis, en fait, rien.
Non, mais par contre, en parallèle de ça, nous, on avait commencé à essayer de prendre contact avec eux et on n'avait pas de réponse parce qu'on était à une période où les élections de maire aux États-Unis étaient en train de se faire et du coup, changement de mairie, etc. Donc, nous, on avait commencé ces démarches. Par contre, l'anniversaire, il est arrivé. Donc, à un moment donné, on a commencé à lancer ça un peu avant la charrue. Mais du coup, ça a accéléré les choses. Et effectivement, on a eu de la chance parce que l'histoire derrière, elle est superbe. Mais des fois, ça se joue un peu par un coup de bluff ou par un peu de forcer un peu le destin, quoi, c'est sûr.
Ouais, parce qu'eux ont été très contents.
Ils ont été flattés de l'initiative.
Bah, aux États-Unis, chaque ville d'un million d'habitants a au moins 5 chaînes privées de télé. Donc on est passé
oui, c'était une chaîne locale.
Dans les chaînes télé. Et puis, on a eu cette visite du maire. Mais, alors, nous, on avait invité donc, pour l'inauguration, parce que, en fin de compte, on a dit, ben, puisqu'il ne se passe rien pour le nom, allons plus loin et pourquoi pas refaire la statue.
La réplique,
puisque
de la statue.
On sait très bien que la statue de la liberté donc, de New York se trouve à Paris, au bout de l'île Saint-Louis.
Et même à Colmar, sur un rond-point.
Dessus, qu'elle a été refaite à l'échelle. Et en fait, c'est un petit village de Moselle près de Metz, donc, c'est dans notre, qui a offert aux Américains la statue de la liberté qui était sur le je crois l'esclavage ou chose comme ça. On a dit ben comme ils n'ont rien dit pour le nom, est-ce qu'il serait OK pour qu'on refasse en plus petit cette statue et donc à l'échelle. Et bien sûr, moi j'ai eu la bonne idée de demander à Francis Hugon donc qui était à l'époque propriétaire de AAB avec ses deux associés et qui faisait la mine d'or, enfin le rocher, qui refaisait le rocher. Mmh. Et Francis, à ton avis, combien que tu me demanderais pour faire à peu près ça, qu'il fasse 6-7 mètres? Et lui, bien sûr, ne répond jamais en prix. Il arrive avec la maquette du Golden, appuyé sur le Derrick, et là, forcément, tu dis non.
Il n'y a plus qu'à y aller.
On ne peut pas réaliser ça. Et donc, c'est là que Fredo a refait des démarches et a eu des très bons contacts avec Michelle Place, qui est la présidente du Grand Comté de Tulsa.
Michelle Place, elle était, parce qu'elle vient de partir à la retraite aussi, mais elle était responsable du musée historique de la ville. Et du coup, elle était extrêmement bien placée pour connaître toutes les personnes de Tulsa et les institutions pour nous aiguiller vers qui pourrait nous donner telle ou telle autorisation. Elle a aussi beaucoup travaillé avec nous, un petit peu sur à nous aider à faire comprendre cette histoire de Tulsa, parce que Tulsa a été vraiment la capitale du pétrole, et donc cette ville a une histoire hyper forte, donc c'était encore plus justifié. Et elle nous a fait rencontrer effectivement Cathy et Karen, qui étaient d'anciennes maires de la ville, et enfin voilà, vraiment on a rencontré des gens incroyables quoi, qui nous ont aidés toujours quoi, à vraiment aller jusqu'au bout du projet, et qui étaient invités à l'inauguration et qui en gardent aujourd'hui un souvenir incroyable quoi.
Puis quelle attraction exceptionnelle quoi, parce que déjà elle est extrêmement bien thématisée, ça a été un vrai renouveau je pense à ce moment-là pour Fred Pertuis, le fait d'avoir composé une musique, un énorme travail sur le décor et cette particularité d'avoir les chutes, les assises de chute qui sont différentes, et même du coup donc la chute debout qui est unique au monde actuellement. Parce que c'était Demonen qu'il avait aussi à l'époque.
C'était oui, Apocalypse à Drayton Manor qui a fermé sa tour l'année dernière. Donc effectivement, aujourd'hui,
c'est l'unique endroit sur la Terre.
C'est
impressionnant pour un petit parc régional quand même.
Alors ça, il y a un vrai coupable. Enfin, un vrai coupable, si on peut appeler ça coupable ou
on le remercie.
Ou responsable. D'ailleurs, je l'ai entendu chez vous en allant à Vienne. Alors, il était déjà un peu co-responsable de Timber Drop, puisqu'à l'époque, je suivais beaucoup son site Trip Sand Park. Et donc, je l'ai bien dit.
Trip Sand Picks.
Ouais. Donc, ok. Et je trouvais qu'il avait beaucoup de talent pour faire ses pitchs et ses choses comme ça. À l'époque, il était inconnu de la CDA. Et donc, à chaque fois que j'avais, quand je lui ai parlé de Timber, parce que je savais qu'il a été allé, qu'il avait fait celui d'Indiana Beach, et il m'a donné son retour, il m'a dit ce sera un très bel ajout en France, Et pour Golden Driller, donc quand je lui ai dit une tour, c'est le pire, si tu nous sors une tour Intamin, il dit t'as pas besoin d'aller spécialement haut. Moi, celle qui m'a fait le plus de sensations, c'est celle de Drayton Manor sur la position debout. Vous le connaissez, c'est Julien Simon. Donc, je pense qu'aujourd'hui, même ses patrons sont au courant, qu'il a conseillé des petits parcs, mais à l'époque, il ne travaillait pas pour la CDA, donc il n'a pas. Et puis, je pense qu'il continuera à le faire, je l'espère. J'ai la chance de le connaître, et donc on a insisté sur cette position debout. Ça n'a pas été évident avec Intamin, parce que on savait pas pourquoi mais une tamine nous donnait la position assis, et après on leur a dit alors assis incliné, et après à cheval et debout. Et debout, ça n'allait pas. Et il a fallu que je me fâche avec le commercial d'Intamin en disant « Mais pourquoi tu veux pas me donner cette position debout ?» Et il dit « En fait, c'est parce que la plus-value est très chère. » Effectivement, elle était de plus de 500 000 euros pour la position debout, alors que la position standard, c'était le prix. L'autre, c'était 150 000 euros assis et incliné. À cheval, je crois que c'était 250 000 euros, mais celle-là, on passait à 500 000 euros de plus. J'ai dit, c'est celle qu'on veut, donc chiffre-moi là et après on verra. Et donc, il a chiffré. Et donc, on ne regrette pas effectivement cette position debout. Julien ne m'a jamais demandé de royalties, donc je le remercie encore. Il est toujours invité gracieusement à venir quand il veut, et je lui offrirai une pizza avec plaisir pour ce qu'on lui doit. Et après, c'est vrai que autour, on a fait travailler Julien
Berthevas, sur les designs, notamment à l'avant,
avec la signalétique
avec Robert,
qui est très efficace,
sur la signalétique et qui est très sympathique, et
super boulot aussi.
Il a un score
pour la musique, ça c'est génial.
Donc là, la machinerie, c'était Clément qui voyait bien, c'est une histoire de machine, de trucs comme ça. Et puis toujours pareil dans l'idée de pousser un petit peu plus loin, puisqu'on était toujours dans le pétrole, d'accompagner cette boucle du Grand Canyon avec les gens qui nous ont fait les décors pour UK Loco, donc en Angleterre, qui nous ont fait les décors de Pirate Attack, de leur demander qu'ils nous fassent un derrick avec cette pompe à pétrole et ce derrick qui s'enflamme à chaque passage de train.
Là, ça fait son effet à chaque fois, parce qu'on arrive dans la zone.
Qui donne quel que soit le prix du gosse, on espère qu'il ne va pas trop augmenter. Mais bon, on n'a toujours pas produit de baril. Donc, de pétrole, mais on ne désespère pas, on continue.
On creuse
encore pour en trouver. Ouais.
Et puis, suite à ça, en plus, il y a eu des très belles attractions qu'on suivit, avec les Drésines, la Yamoka Arrêtée. Enfin, à chaque fois, c'est extrêmement bien décoré pour des flat rides avec beaucoup beaucoup de détails, des histoires originales, et ça crée vraiment des attractions uniques pour ce thème Far West, enfin plus large Amérique du Nord quoi. Mais
surtout que généralement ça commence un petit peu un soir de généralement de, alors là il y a rien de prévu pour l'année prochaine, mais c'est à peu près là qu'on commence, ou un peu avant, parce qu'on a déjà visé une attraction,
les idées germent un petit peu,
et puis on est tous les trois dans le bureau, et puis on dit qu'est-ce qu'on peut faire, et puis au début on va mettre plein de couleurs, on va faire un truc plein de couleurs mexicaines, et puis Clément dit moi je verrais plus une machine, et puis un truc d'abroyer le piment, et puis de fil en aiguille on dit alors Fredo commence à, quand on discute il cribouille sur son truc, et ça a été pour les Drésines pareil, comme j'ai dit c'est à côté de la gare, moi je savais qu'il y avait les Drésines, parce que les Drésines dans la tête des gens c'est beaucoup les Drésiennes des enfants quoi, ils savent pas ce qu'est réellement la Drésine, ou là qui servait à vérifier les voies ferrées, et on pompait à deux, et Fredo forcément alors Technical nous avait proposé la version Drésine, mais forcément on était dos, enfin il y en a un qui
un
était toujours
en marche avant et l'autre en marche arrière,
donc on a dit
face à face,
à mon avis là ça va pas le faire, celui qui va être tout le temps en marche arrière il va pas sortir. Et Fredo a trouvé une réplique dans un musée de je sais pas quoi, où il y a eu une Drésine qui a été faite avec une chaudière vapeur,
oui après il y a des Drésines qui ont commencé à être équipées des premières machines à vapeur, et donc du coup ça a pu faire le lien. Et pareil avec Technical, parce qu'on n'est pas, après il y a la partie technique, on peut avoir des idées mais il faut que les constructeurs arrivent à nous le rendre réel quoi. Et après ils ont encore travaillé avec des éléments qu'ils ont trouvés dans la collection Schlumpf de Mulhouse, et du coup ils ont proposé plusieurs designs. Franchement on a, il y a eu des allers-retours sur ça pour arriver aujourd'hui à ces Drésines, mais c'est à chaque fois une super aventure quoi, de pouvoir créer son attraction. Mais après ça a un coût, enfin évidemment c'est chouette tout ça,
c'est jamais gratuit
mais je pense que ça, on vous le rend bien avec les visiteurs, après, avec les avis, parce qu'il y a toujours un niveau de détail exceptionnel hein.
Alors c'est un coût effectivement, après comme souvent quand on est les premiers les constructeurs minorent un peu ce coup parce qu'ils savent aussi que derrière il y a un marché.
Ça fait la carte de visite. Et on
le voit, même si Walibi a eu la politesse de nous demander l'autorisation d'utiliser des résines dessus. En fait, on n'avait pas déposé d'exclusivité sur ce manège. Et effectivement, ça change des sidecars habituels dessus, comme Zireur a demandé pour les pieuvres. Comme, voilà, je pense, j'espère qu'ils demanderont aussi pour le Mall Gadget, parce que, voilà, nous, ça ne nous dérange pas à partir du moment où l'attraction n'est pas vendue dans un parc à proximité.
Et alors, comment ça se passe, tout le processus créatif, justement, des nouveautés, le choix de l'attraction, jusqu'à la conception, la réalisation Est-ce qu'il y a des études basées sur le retour des visiteurs Ou c'est plus par envie à chaque fois?
Je crois que l'histoire, elle est vraiment différente à chaque fois, mais à Frépertuis, il y a une volonté d'alterner et d'essayer de satisfaire un peu les différents publics par alternance. Et donc, des fois, effectivement, ça va aller chercher des choses vraiment pour les enfants, des fois des choses très familles, des fois des choses très sensationnelles. Et il y a une histoire, une sorte de ping-pong un petit peu là-dedans pour que tout le monde s'y retrouve. Donc ça, au niveau du choix vraiment de l'attraction, puis bah, après l'idée c'est quand même de compléter l'existant, quoi.
Ouais, et puis c'est ça peut être ou coup de cœur comme Timber Drop, mais version El Loco. C'est lors d'un salon IAPA, alors c'est le seul qu'on avait fait. Ça faisait 10 ans qu'on avait repris avec mes sœurs, et c'était à Las Vegas. Et en fait, personne ne connaissait Las Vegas. J'avais dit, comme on avait fait une bonne saison, j'avais dit c'est un moyen de découvrir Las Vegas. Donc on est allé faire le IAPA à Las Vegas. Et je pense qu'il ne s'est pas fait beaucoup de fois. Ça doit être la dernière fois qu'il s'est fait, même sûr, puisque maintenant il est essentiellement en Floride. Mais voilà, il y avait une vidéo qui tournait et tout de suite, je dis c'est sympa, ça n'a pas l'air de prendre beaucoup de place. L'histoire du virage incliné avait bien plu dans un parc qui existait déjà en France. Et puis l'histoire de rouler à l'envers aussi, je trouvais que c'était un bon mixte dessus. Après, par exemple, pour les molcarettes, c'était assez drôle parce que j'étais allé avec mon épouse au jardin d'acclimatation. On avait commandé les draisines en version XL, mais je les avais même jamais vues en version standard. Et je savais qu'il y en avait un au jardin, donc au mois de septembre, octobre, on va au jardin. On avait commandé ça, on avait pris chacun un ticket pour essayer. Et puis j'entendais beaucoup de monde qui rigolait derrière sur beaucoup de monde. Le monde qu'il y avait au mois de septembre ou au mois d'octobre au jardin, mais c'était une belle journée. Et j'entendais les gens qui s'amusaient. En fait, c'était sur les sauterelles, alors je sais pas comment ils l'appellent,
l'Astrolabe.
Le modèle SBF dessus. Et comme je sais que mon contact au TUF, c'est lui qui vérifie le jardin, j'ai dit, tiens, qui c'est qui fait ce manège-là? Il m'a renvoyé là-dessus. Nous, on a travaillé avec Technical parce qu'on avait bien, ça avait bien matché sur les draisines. Et voilà, les sombreros avaient un problème de débit, et puis on voulait quelque chose d'un peu plus fun. Et donc, on a demandé à Technical de nous faire ces sauterelles. Donc, voilà, c'est comme ça que souvent donne l'idée d'une nouvelle attraction, où c'est un coup de cœur. Ou alors, c'est de vouloir faire quelque chose d'important comme Golden Driller. Et là, moi, personnellement, je ne l'ai pas essayé parce que je suis un trouillard né. Mais donc, je ne peux pas dire que c'est un coup de cœur pour la sensation. Mais je savais que les tours Intamin étaient de bonne facture et donc qu'elles procuraient une bonne sensation, bien que ce soit très sélectif. Mais elles font le job, il y a toujours du monde, il y a toujours des nacelles qui tombent en permanence. Et en plus, on voit qu'elles ont fait remonter le niveau de sensation, si vous voulez. Il y a quelques années, quand on a démarré le cactus, au début, il y avait 12 personnes, enfin, il y avait deux cycles qui attendaient dans la file d'attente, clairement. Après, on a mis Golden Driller, aujourd'hui, la file d'attente est tellement longue qu'on est obligé de mettre deux personnes au cactus pour changer. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont passés dessus. Moi, pour l'instant, j'en suis qu'au Jolly Jumper, donc j'ai la petite tour de 5 mètres, mais forcément. Non, mais voilà, je pense que c'est Golden Driller qui a boosté l'engouement pour aller sur le cactus.
Ah, tout à fait. Bah, c'est vrai qu'il fait un tout petit peu moins impressionnant maintenant par rapport à la Grande Tour. Donc, ils disent, allez, on peut au moins faire celui-là.
les plus jeunes, quand ils voient la Grande Tour, ils peuvent se dire, bon, je vais commencer par les cactus.
C'est vrai.
Ça, on va aller crescendo. Et c'est pas les cactus, la Grande Tour. Donc, ça peut être le premier défi avant d'aller sur du plus grand.
Mais pas que pour les enfants, parce que on se rend compte que les enfants ont de moins en moins peur. Ils attendent juste d'avoir la taille autorisée pour y aller. Mais effectivement, c'est parfois effectivement pour les parents, etc., une étape effectivement pour en termes de hauteur. Et donc peut-être beaucoup ne vont pas encore sur Golden Driller, mais par contre ça a ouvert sur le cactus ou sur d'autres attractions qui étaient un petit peu hautes. Même Timber, du coup. Paraît plus petit maintenant, alors qu'il n'a pas changé de taille, mais les gens ont un peu moins peur de Timber Drop qu'ils pouvaient l'avoir quand il n'y avait pas encore un autre élément référentiel qui était beaucoup plus haut, quoi.
Et donc, dans 3 ans, le parc fête ses 60 ans, déjà. Est-ce qu'il y aura quelque chose de particulier, une festivité, un gâteau avec Billy qu'on pourra manger et souffler, on doit souffler les bougies?
Oui, en plus, je crois que le gâteau des 50 ans, on l'a conservé.
Est-ce
donc,
qu'il est très frais?
Disons qu'on n'ouvre plus le frigo à ce moment-là.
Après, je ne sais pas si. Forcément, on n'a pas de master plan ou de plan de développement de projection dans les 5 ans, même pas dans les 3 ans à venir. Donc dire s'il y aura quelque chose de spécial dans les 3 ans dessus, je sais pas. Et en plus je me pose toujours la question, est-ce que c'est judicieux d'ouvrir une attraction l'année où c'est parce qu'il y a plein de choses à faire une année où c'est les 60 ans du parc festif, de décoration, de choses comme ça. Et donc si on peut ouvrir une belle attraction en 2025, ça ne me dérangerait pas de rien faire en 2026 que du festif dessus, quoi. Voilà, pour moi, dans mon esprit, quoi, c'est pas parce que c'est les 60 ans du parc que c'est obligé d'avoir une attraction. Après, si elle tombe l'année là, ça va être... Après, c'est plus dans l'échéancier, parce que aujourd'hui on est dans une phase de développement où il faut penser à la logistique, entre guillemets, la logistique, le stationnement des voitures. Aujourd'hui, j'ai un peu je repousse des projets parce que tant que tout ça n'est pas réglé, on risque d'apporter une attraction qui risque de générer peut-être 50 ou 60 000 visiteurs de plus. Si il suffit que l'attraction soit suffisamment intéressante, et si on n'est pas en mesure de les stationner les jours où il y a du monde, forcément ça fait l'effet contraire, quoi. Enfin, je veux dire par là que c'est pas un bon plan. Donc réglons déjà ces problèmes un petit peu de logistique, et après effectivement t'es permis, et donc le plus tôt sera le mieux, sitôt que les banques sont prêtes et que les constructeurs peuvent nous sortir quelque chose qui rentrerait dans notre budget, qui plairait à nos visiteurs essentiellement, c'est go. Après, si ça peut être fait pour 2025, ce sera pour 2025. Si c'est pour 2024, ça va être short maintenant.
Là, on va pas se mentir, ça va être quand même très short.
Oui, j'allais dire, à moins.
Alors après, il y a des.
À moins qu'il fasse soleil tous les jours.
Mais alors, après Vertuil, il y a eu des exemples de choses qui ont popé de nulle part en moins de temps qu'il faut pour un bébé. donc aujourd'hui, je ne sais plus. Mais non, là, ça va. En tout cas, sur une attraction, aujourd'hui, en plus, les délais des constructeurs ont beaucoup évolué. L'acheminement de certaines pièces pose de plus en plus de soucis pour plein de parcs et pas que le nôtre. Mais donc ça fait qu'effectivement ça rend certaines idées beaucoup plus difficile et il faut vraiment les prévoir à plus long terme. Mais effectivement, il y a aussi d'autres petits projets comme un jour le laser. Laser City, il est apparu vraiment assez rapidement. Le studio All Time Photo qu'on a au milieu du parc, il est aussi apparu en un hiver. Enfin, donc voilà, c'est le mystère après d'une inspiration flash et puis de réussir à mettre tout en œuvre pour que ça se fasse. C'est le mystère.
Bah écoutez, messieurs, merci.
Bah merci à vous.
C'est nous qui vous remercions de nous avoir fait l'honneur de venir jusque dans les Vosges depuis si loin, et c'est un plaisir de vous recevoir.
Merci pour nous avoir raconté tout ça, mais surtout, c'est que le premier des deux épisodes.
Et oui, on fait du teasing, hein.
Attention.
Oui.
On se retrouve bientôt alors.
Exactement.
Okay.
Quant à vous, chers lecteurs, chers viewers, merci beaucoup. N'oubliez pas que nous sommes disponibles sur tous les réseaux, c'est-à-dire YouTube. Il y a quoi ? Il y a Spotify, il y a Deezer,
Instagram.
Instagram, il y a...
On a X, on a aussi
un superbe Discord avec des modérateurs qui sont au top.
Et exceptionnel, avec plein d'animations, des directs que vous ne trouverez que là-bas. Donc
exactement.
Allez-y.
Exactement. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, suivez-nous. Et de toute façon, nous sommes au rendez-vous. Donc,
et allez à Frépertuis.
Allez à Frépertuis,
vraiment.
Et avant d'aller sur frépertuis.fr, vous avez aussi puissanceparc.fr, c'est notre hub. Voilà tout. Merci à tous et à bientôt.
Merci beaucoup.
Ciao les puissants.
À bientôt.
Ciao.